Amis de Radio Occitanie de la Poésie, bonjour, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Alors, je voudrais vous parler aujourd'hui des lieux. Les lieux, c'était ce qui était cher à notre ami et regretté Michel Cauzem, qui a dirigé Encre Vive pendant plus de 60 ans et qui nous laisse une œuvre poétique et une œuvre éditoriale importante. Il avait cet amour des lieux, à telle enseigne qu'il avait créé aux éditions Encre Vive, qui existe toujours, sous la férule de Éric Chassefière, à qui il a passé le flambeau et qui perpétue donc cette revue Encre Vive. Il avait donc cet attachement au lieu. Éric Chassefière, donc le nouveau directeur d'Encre Vive, a également cet attachement au lieu. Et il vient de faire paraître aux éditions Raphaël de Surtis, ces éditions qui sont à Cordes-sur-Ciel, chez nous, dans le Tarn, il vient de faire paraître des écrits sur la route, des poèmes, pour que parle la beauté. Et donc, pour que parle la beauté, dans ces très beaux livres, donc, aux éditions, je vous ai dit, Raphaël de Surtis, qui est un livre épais, hein, puisque il y a plus de 300 pages, hein, plus de 310 pages, avec de belles illustrations. Eh bien, là, on va écouter ce qu'il nous dit donc sur cette beauté qu'il est allé traquer sur les routes. C'est souvent hein, que les poètes vont traquer la beauté sur la route. Le mouvement fait partie, la marche a toujours fait partie de la panoplie du poète. Alors voilà ce qu'il nous dit, Éric Chassefière, dans ce livre. Il écrit ça à Phnom Penh le 29 avril 2025. Ce recueil, dit-il, présente l'intégralité des poèmes écrits au fil de différents voyages effectués dans les 15 dernières années. Parmi les carnets reproduits ici, 8 ont été publiés par les soins de Michel Cauzem aux éditions Encre Vive. 7 dans la collection Lieux et 1 dans Encre Vive proprement dit. Alors, nous avons rendu compte ici à cette radio de certains dont de ces publications à cette époque-là. Des 5 ensembles restants, 3 ont été publiés aux éditions de l'Atlantique. Les éditions de l'Atlantique sont devenues des éditions Alcyone, aujourd'hui disparues, qui étaient dirigées par Sylvaine Arabeau. Et un apparu donc aux éditions Sémaphores à Quimperlé. Et le 5e, édition sur un lieu sur le Cambodge, hein, un recueil sur le Cambodge, encore en cours d'écriture au moment où je termine ce préambule, étant inédit. Notons que les poèmes publiés par les éditions de l'Atlantique et Sémaphore ne représentent qu'une vingtaine de pages de l'ensemble, les poèmes publiés par Encre Vive et le carnet inédit du Cambodge en occupant la plus grande partie. Je tiens, nous dit Éric Chassefière, à souligner d'emblée le rôle essentiel qu'a joué Michel Cauzem dans la naissance de ma motivation à écrire de la poésie en voyage, motivation qui est rapidement devenue nécessité, un voyage sans écriture, du moins un voyage court, qui ne permet pas de nouer des contacts durables et de comprendre en profondeur la culture d'un pays, ayant rapidement, à mes yeux, perdu tout intérêt. Ainsi pour moi, voyager est écrire, écrire avant tout pour que parle la beauté, comme l'exprime le titre du recueil. À chaque retour de voyage, j'ai eu le bonheur d'être lu, apprécié et publié dans un délai de quelques mois par Michel Cozem. Bonheur qui m'a toujours poussé à continuer, faire de la joie de l'écriture en voyage, la joie du voyage lui-même. Aujourd'hui, je ne peux penser voyage sans penser encre vive, et penser encre vive, c'est d'abord pour moi affirmer l'unité profonde entre ces carnets, qui décrivent en fait le même voyage, le même retour à travers l'autre vers soi-même, mais sous différentes lumières et dans différentes périodes de la vie. C'est donc à Encre Vive et à son créateur que je dédie ce livre. Mes pensées vont aussi à ma compagne, Catherine Bruno, avec qui nous avons partagé toutes ces belles itinérances, à l'exception du voyage écossais mené à deux avec mon fils Romain et les voyages aux États-Unis et en Chine effectués seuls à l'occasion de déplacements professionnels. Mes poèmes et ces proses de voyage, ayant été parfois publiés dans le même recueil de la collection Lieux, comme après nos voyages au Vietnam et dans le Péloponnèse, offrant au lecteur deux regards croisés sur la même réalité. Concernant les quatre ensembles qui n'ont pas été publiés par Encre Vive, trois l'ont été aux éditions de l'Atlantique en 2010, Le silence de l'arbre entier, et 2012, La traversée du silence, le quatrième l'étant chez Sémaphore, Quimperlé, L'immédiat de vivre. Je remercie Sylvaine Arabeau et Bruno Geneste pour l'autorisation donnée de publier ces poèmes. Et bien sûr, il me faut dire ma reconnaissance à Paul Sanda, poète donc et directeur des éditions Raphaël de Surtis, sans qui ce livre, dont le projet a revêtu tant d'importance pour moi et dont le plaisir à l'avoir publié est immense, n'aurait jamais existé. Voilà, Paul Sanda, nous en avons parlé ici, il faudra vraiment que l'on puisse faire une large émission sur Paul Sanda, grand poète qui vit ici à Cours-de-sur-Ciel, et qui anime donc ses éditions Raphaël de Surtis. Excellentes éditions. Alors, j'ai choisi, parce que, bon, je vous dis, ça fait quand même plus de 310 pages. Donc, j'ai choisi la suite malgache et les États-Unis. Alors, la suite malgache, parce qu'il y a des événements actuellement à Madagascar qui nous préoccupent. C'est un lieu qui nous est attaché, puisque Claude, il y a de la famille à Madagascar. Il connaît bien le pays, il a résidé de longs mois à plusieurs reprises et que nous avons fait des émissions sur les grands poètes malgaches. Donc Madagascar. On va parler là de Antananarivo. Chaque lieu de ce jardin, dans l'ombre d'un autre lieu, chaque tige brûlant le temps, ouvrant ses lourdes fleurs de feuilles, le peu qui grandit dans l'ombre de notre présence qui s'épanouit. On descend le jardin en espalier, examinant les dizaines d'espèces, effritant les feuilles entre nos doigts pour en faire sortir l'arôme mêlé à l'odeur de notre peau. On se laisse au bord de la rivière, prendre au tissage de la lumière, glisser dans la fragilité de ses miroirs. La couleur de fruits inconnus brille dans le chemin d'un arbre, le jardin partagé par la peau. Chaque main d'oiseau y devient caresse. Voilà. Alors cette démarche, il le dit bien, hein, à Michel Cozem. Et effectivement, Michel Cozem m'a dit, moi, quand je voyage, j'ai toujours un carnet et je prends des notes. Il y a 25 ans, il m'a dit ça, ou 30 ans, je ne sais plus. Et donc j'ai pris, effectivement, comme Éric Chassefière, je crois qu'il a fait des adeptes, hein, Michel Cozem, C'est quoi, en définitive, si on réfléchit bien? Mais c'est un éveil, c'est-à-dire, il faut voyager en étant en éveil. Et donc, en ayant déjà l'intuition du poème, en se disant ce que je vois, comment ce que je vois va pouvoir se retrouver dans le poème, comment il va construire le poème. Et pour cela, bien entendu, il faut prendre des notes. Des notes sur le lieu, ça peut être sur l'histoire du lieu, ça peut être sur la beauté du lieu, la géographie du lieu, ça peut être tout simplement sur la sensation que l'on a eue dans ce lieu, qui peut être aussi une sensation née de réminiscences d'ailleurs ou d'autres choses. Voilà. C'est donc très large, cet engouement du lieu, et ce lieu qui devient toujours créateur, puisqu'il va donner naissance au poème. Voilà ce que Michel Cozem a eu, cette intuition, et que nous avons été nombreux, cette intuition, à la partager, dont Éric Chassefière. Alors je continue. Là, on est toujours à Madagascar, à Metsi. S'engageant dans ce paysage de collines, au lavaka ocre rouge de terre humide, creusant la matière chaude des vers prairies constellées de pierres qu'elles cachent, comme ailleurs des percelles de rizières où se lisent les reflets du temps, ce ne sont pas les chemins qu'on choisit, mais les plis des lignes d'arbres, les épaulements du grand corps endormi, plongeant dans les clartés de la vallée. Les villages aux hautes maisons de briques rouges s'y égrènent, le long du chemin rejoint par la terre pentue jonchée de pierres qu'habitent zébus et âmes des morts, tombeaux carrés, certains peints de blanc, soleil fixe dans les brumes de la couleur, mots échangés par qui pour un moment s'emboîtent, puis les chemins divergent, se noient dans la terre. Revenant par la route, on est pris dans la foule de ceux-là qui, vacant à leurs tâches quotidiennes, nous emboîtant le pas dans le flot de vie, ont planté tente du ciel au bord du chemin. Et puis à Antananarivo, toujours, Antananarivo, on rejoindra la ville par la diguette, dont la butte herbeuse vue de la colline semble se perdre dans l'enchevêtrement des plans que forment les parcelles inégalement plantées. Il faudra franchir le petit pont qu'on aperçoit d'ici, reprendre vers la gauche, suivre le canal à droite, puis encore à droite, avant de trouver le bus vers le centre-ville. Des maisons de pisée, serrées comme des bouquets d'arbres, poussent contre la digue, et plus loin dans la rizière, le soleil écarte partout la pénombre des yeux, met à nu l'éclat de la clarté d'un sourire ou de la profondeur d'un regard, c'est selon. Au piquet de fleurs, s'épanouissant dans le silence, labyrinthe où chaque voix instantanément amortie est sillon d'une lente, frêle embarcation, comme celle de ce pêcheur courbé sur l'eau morte, dont on ne sait lequel de lui, de son reflet, se penche, traverser le golfe de notre regard, rendu les fragiles miroirs à leur cadre d'obscurité. Il nous semble que nous entrons dans ces maisons, n'ouvrant sur rien que le ciel de la rizière, où vient doucement mourir le soleil du monde. Toujours Antananarivo. De son grande maison lumineuse, perchée sur la colline derrière l'ancien palais, qui domine un lambeau de ville basse, nullement desservi, nous dit-il, par la moindre rue, quartier que dévore l'ombre et la pauvreté. Il nous fait visiter l'atelier de tissage. Les faisceaux de fils clairs qui disent l'ordre, l'agencement parfait des motifs de la matière, la machine à tirer de leurs alvéoles, puis torsader les 24 fils d'araignée en un seul fil qui a couleur de l'or, puis, au premier étage, le musée. Les vieilles photographies de foules et de rois, que l'extrême contraste entre noir et blanc transfigure, nous explique l'histoire de l'île, l'origine du terme Ariar, et bien d'autres choses. S'excusant sans cesse et de peut-être nous importuner, enfin exprime ses doutes pour l'avenir. Tandis qu'assis dans la salle claire sous le toit, dominant le lacis de ruelles ténébreuses, murs impeccablement blancs, parquet ciré, nous tuons les mots autour d'un jus glacé qui rafraîchit autant les pensées que le corps. Voilà. Alors, on voit là, ici, qu'il exprime ses doutes pour l'avenir, hein, le guide. Doutes, effectivement, que l'on comprend, puisque Madagascar traverse actuellement une période trouble. Et, bien entendu, nous sommes très attentifs à ce qui se passe sur ce pays qui reste un pays donc il nous est terriblement attaché, dont nous sommes terriblement attachés. Maintenant, un texte sur Finirantsoa. Finirantsoa, c'est sur les plateaux de Madagascar. Et c'est les hauts plateaux, au milieu de l'île, à peu près. Et c'est là que ma sœur aînée a vécu pour enseigner le français, là, à Finirantsoa, je crois qu'on dit. Elle a vécu 8 ans, là, sur ces hautes terres. Voici ce qu'il en dit, Éric Chassefière. Pays froissé des hautes terres, amour rouge dressé sur la terre rouge, tressant écorce de la sueur et de la nuit, vert s'étageant comme des tuiles sur les cryptes profondes des collines, terre à la fois douce et rude, tressage des tons crus de ses couleurs, matérielle variation de l'ombre dont on ne sait quelle part tient à la terre, son âpreté, la dureté de ses contrastes, quelque part à la lumière, aux nuages, à l'immensité projetée de notre regard. Passé Ambrositra, l'horizon se resserre. La pluie vient, puis la brume, transformant chaque creux de rizière en chapelle. Les silhouettes au bord de la route, on les voit disparaître l'une après l'autre par des chemins légers comme des ruisseaux dont la trace sur la mémoire aussitôt s'efface. Voilà, alors c'est encore une photographie là, une photographie de la ville, du paysage. Mais cette photographie, c'est surtout la photographie du sentiment que l'on a à être à Finirantsoa. Ranoika. En descendant vers le sud, la terre s'aplanit, se tend comme une peau par vagues longues, hérissée d'arbres maigres et de blocs de pierre. Plus tard, la peau se détendra peu à peu, les couleurs se feront moins vives, d'immenses poches de terre lisse et grise se creuseront telles des hamacs dans le lointain, on aura franchi la porte du sud, de rochers géants, plissés de rides verticales, empilés l'un sur l'autre que l'on contourne par l'est, la pluie aura cessé, le couvert nuageux se fragmentera en milliers de blocs compacts
de pierres plates flottant à hauteur de crête, comme découpées à la scie du soleil. La route alors s'engagera dans les carrières du ciel, percera rectiligne un paysage en pente douce de savane qui descend jusqu'à la mer. On verra loin, devant la route devenue miroir, surgir entre les deux remblais noirs qu'elle creuse, dans le ciel vif encore scintillant du sel des paupières. Voilà une photographie. Il photographie avec les mots, avec la langue. Et bien entendu, c'est cette langue qui va créer la sensation du lieu. Alors, faire éprouver le lieu, non pas par l'image, que ce soit le tableau, la photographie, le dessin, mais par les mots, par la langue. Par exemple, Tuléar. Deux très pauvres masures au bord de la route. Les foules colorées d'enfants qui jouent, de silhouettes portant eau, sac et fagots, d'attelages charrettes, bicyclettes, ployant sous le chargement où elles disparaissent, car la route borde un immense jardin, et ceux qui marchent là, par groupe ou solitaire, s'égayant sous les arbres vers d'invisibles demeures, portent sur leur visage l'intimité de ce jardin, le refrain pudique du vent ou de l'oiseau, quand l'arbre nocturne boit la terre, le rythme de la scie de la tôle frappée, de la roue qu'on répare dans un coin de nuit. Toute cette vie qui ne nous sera jamais donné de partager, si ce n'est peut-être infime instant de connaissance dans le sourire qui, lorsqu'il nous revient, nous semble, à travers la distance infranchissable, témoigner de l'instinctive capacité de l'homme à aimer, se lire dans l'autre, le reconnaître en soi-même, dans l'éphémère jeu de miroir de la rencontre. Voilà. Alors, on retrouve un peu ce qu'on disait la semaine dernière à propos de ce que disait Delphine Orvilleur, disant que il ne faut jamais vouloir, bien entendu, la disparition de l'autre, et que on ne peut jamais pouvoir effacer l'autre. Mais ce poème de Éric Chassefière, et qui rencontre évidemment de cette beauté, la beauté ayant des facettes infinies et voire contradictoires, et cette beauté des lieux, cette beauté qu'il voit à Madagascar, et en même temps qui est la beauté d'une certaine rudesse de vie, pour ne pas dire une certaine misère de vie, et dont il dit que effectivement il est difficile de partager toute cette vie, dit-il, qui ne nous sera jamais donnée de partager, si ce n'est peut-être infime instant de connaissance dans le sourire. Voilà. Et il va pouvoir partager quand même avec ces Malgaches, et qui ont évidemment une vie qui ne ressemble pas à la vie d'Éric Chassefière, et qui ne ressemble pas à la vie des touristes. Il va pouvoir là lire dans l'autre, le reconnaître en soi-même, dans l'éphémère jeu de miroir de la rencontre. Pourquoi ? Parce que l'homme a cette capacité qu'il a, une capacité instinctive, nous dit Éric Chassefière, à aimer. Tuléar toujours. Le jardin de l'hôtel Plaza du Sud abrite le vent qui vient de la mer et fait escale ici dans le silence des palmiers. Marée basse ce matin, la ligne d'écume se noue et se dénoue sous le massif des nuages, au fond du vaste no man's land, de boue et de vase. sur lequel ouvre la terrasse plantée devant, mais l'éternité croît aussi dans ce jardin, mince et haut totem de bois gris entre les arbres. Colonne, que supporte une sculpture d'homme ou de femme, montrant à leur sommet une scène du quotidien, un couple à sa table, un zébu et son petit, toute cette vie qui fit la richesse du mort. Totem, dos à la mer, tourné vers les balcons, de l'hôtel aux chambres traversées devant, comme si le temps, aussi, traversait ce lieu, dans le regard clos des hautes figurines de bois, où l'on enferma la nuit, pour que l'on y puisse rêver. Alors, il y a l'image du zébu, le zébu qui, je pense que Claude Bretin ne contredira pas, qui est une image symbolique de Madagascar, le zébu. Je me souviens que ma sœur nous avait apporté des petites céramiques que l'on mettait là sur le que l'on pouvait accrocher comme élément décoratif, et c'était toujours un zébu, son nom, cette vache, la vache à bosse que nous ne connaissons pas ici. Alors maintenant on va aller à Ansoke, je ne sais pas si il a connu Ansoke, Claude. Parcourant les allées transparentes de l'arboretum, ombre immobile plaquée contre la terre dure, contre l'iguane ou le gecko, sculptant la branche, on se glisse dans la part d'ombre de la terre. Pachypodium, euphorbe, octopus, baobab sont autant de machines à faire circuler l'eau. Je cachais de godets, poulies, chaînes minuscules, qu'on imagine dans les renflements tractant les sucs, mettant en mouvement la puissante horlogerie, née de moins que la graine de la graine, ces arbres aux formes de nos corps, nos mains, vivante excroissance de la terre, fabriquent tout piège de glu, substance curative, poison et antidote, épines et fruits, tout ce que la vie peut produire de doux et d'amer. Voilà. Alors, je crois que nous avons toujours sur le site lespoètes.site, lespoètes.site, des vues de Claude de Madagascar, hein. Donc, vous pouvez compléter la lecture de ces textes, hein, par les photographies de notre Claude, là, voilà, qui est sur la marge droite du site lespoètes.site. Et là, on va à Tuléar. Tuléar, il connaît. L'air du large pénètre dans la chambre, agite le rideau tiré sur la moustiquaire, emplit le silence du chuintement sonore, du jardin maintenant plongé dans l'obscurité, couvrant et découvrant la sourde mélopée de voix qui nous vient du balcon d'une chambre voisine. Le jardin qui respire ainsi dans la fenêtre, en écho à cet autre qu'on sent battre en nous, est celui des palmiers, des vieilles balustrades, où ceux d'ici, dans la journée, viennent s'asseoir, regarder la mer, comme on prépare une évasion. Des kiosques de bois peints aux couleurs écaillées, de ces vagues qu'on entend encore se briser, de cette plage à une heure de mauvaise piste, ou sur la terrasse de bois de la maison d'hôte, on nous servit dorade et cigale de mer, pêchée devant la plage, dans la lagune, sous le soleil léger, frémissant au vent de l'éolienne, qui ce soir encore égratigne la paupière. Voilà. Belle image donc de Tuléar. Et puis, on va aller maintenant à Anteiroka. On ouvre la porte du bungalow, sur le jardin aux fleurs illuminées. l'intérieur devenu l'extérieur, la présence, la partagée de l'oubli, en instant de la chaise de bois peint sous l'arbre que découpe la végétation, dans le haut ciel pommelé de nuages, petits nuages épars aux formes rondes, à la peau luisante et lisse, comme ses fruits dans le verger d'en bas, qu'on fut incapable de nommer. La porte, grande ouverte du bungalow, dont la face intérieure est inondée de soleil, le tabouret bleu devant la porte où tu écris, te découpant sur l'ocre du pisé, l'aquarelle à l'intérieur ornant le mur ombré, le pan de rideau blanc brodé qu'on voit derrière s'agiter doucement à l'air, sont le vrai seuil de ce paysage de rizières et de collines, trouant les arbres, paysage comme de l'intérieur de l'œil, dont il suffit de tirer le rideau de la nuit pour en tenir sous la paupière le rêve en son entier. Voilà. Alors, bien sûr, aller dans un paysage où on va rêver, chercher le rêve dans les paysages, dans l'exotisme, hein. C'est l'aventure du poète. Pas que, mais c'est aussi l'aventure du poète. Retour à Antananarivo. La petite maison derrière le haut mur, cernée d'une courette juste assez grande pour qu'on puisse y garer la Land Rover, renferme les joyaux que cet artiste marqueteur fait jaillir des troncs de bois flottés et des œufs de baleine aux formes stylisées, omoplates pareilles à des ailes de papillons, côté lancé tels des piques de guerriers, motifs floraux humains animaliers, épouse en un plaquage mosaïqué d'une précision extrême ses formes fluides auxquelles il sert d'écrin, laissant toujours en quelques lieux émerger la forme, se déployer le grain, longuement lissé par la mer, de cette matière à la fois vivante et morte qu'il incruste des yeux et des oreilles de sa perception. La matière ici reprend vie et se souvient. Il nous faut caresser la trame de bois fin, éprouver la finesse des jointures entre faces adjacentes, refaire le trajet de la lame fine épousant le trait pour sentir à quel point nous sommes les créateurs de ces œuvres dont l'artiste ne transmet que l'énigme. Ah. Alors, un poème qui est très riche, en fait, hein. Il parle de ces artistes qui font jaillir donc des troncs de bois flottés, hein, des troncs qui a flotté dans l'eau que l'on ramasse et qui sera prétexte donc ce morceau de bois qui a été ramassé pour être saisi d'une nouvelle forme par le génie de la création et de l'artiste, mais ces œuvres ne sont en fait véritablement accomplies que par le regard de celui qui va les admirer. Et en définitive, c'est lui qui arrive à percevoir l'énigme de la création, donc, qui résulte du travail de l'artiste sur ces bois flottés. On repart là en Te Iroka. Chaque matin, il taille, coupe, élague, travaille le jardin autour de la grande maison, dont jour et nuit, les portes sont ouvertes. Il passe toujours du monde ici, silhouette parcourant allées et escaliers qui, de loin, se saluent d'un geste du bras. Ses vies qui traversent le jardin sont pareilles au vent, dont l'ami, toutes fenêtres et portes ouvertes, s'abreuve. Cette présence partout des gens du vent qui coulent dans les ruisseaux de plantes et de fleurs, du jardin découpé dans les fenêtres, où parfois l'oiseau au reflet rouge vient s'habiller d'une eau profonde de palmes. Cette rumeur qui s'élève de la rizière, coqs, zébus, canards, oiseaux tisseurs de branches, voix d'enfants, roulement sonore d'eau qu'embrasse, font la transparence de cette maison, ce jardin, dont on ne sait lequel ouvre sur l'autre, si le jour ou la nuit se font dedans ou dehors, si la vie qui parle ici n'est pas intérieure au silence. Voilà. Donc, l'ombre, la lumière, le dedans, le dehors, s'égarent un peu l'un l'autre. Et là, par le travail de la langue, il y a toute une ambiance là de la ville, de ce travail besogneux, mais pas que, où il y a aussi place à une certaine méditation. On voit que les gens aussi ont cette méditation en eux-mêmes et qui s'expriment, voilà, et qui évidemment va faire place au silence. Et là, nous portons à Amboimanga. Du sommet de la colline où l'on est parvenu, à l'issue d'une sente où des marches ont été creusées, saignées rouges à même la peau lassée d'arbres, de cette terre où vécurent les premiers rois mernes, puis de champs creusés, de parcelles cultivées, de loin en loin, cachées dans les hautes herbes, on domine la plaine de Tananarive, cet immense miroir cavelé de lumière, incrusté des figures géométriques de longs murs, de fossés circulaires aux formes d'anneaux, dont le fin découpage ne se voit que d'ici, miroir de la terre qui s'offre à ses anciens rois. On fait au sommet d'un rocher le nouvel an malgache. La chaleur est lourde dans le tombeau du devin du roi, où ceux qui dehors boivent, fument et dansent viennent dans la pénombre s'allonger sur la pierre, allumer des bougies minuscules comme des étoiles, regard perdu dont on ne sait quel chemin de la peau, tandis qu'en contrebas, perché sur son arbre, l'enfant roulé en boule se balance comme un fruit noir dans le soleil où ne bercent que deux yeux blancs. Marchant à flanc de colline dans l'herbe épaisse, recouvrant un chaos de pierres, de mottes dures, à chaque pas posant le pied avec précaution, on découvre que cette terre, apparemment sauvage, morcelée à l'infini de collines semblables à celle-ci, où l'on ne distingue pas trace de village, en tout lieu de notre passage, est habitée, que chacun de ces chemins à peine tracés, que nous suivons, franchissant des fossés, longeant d'incertaines lignes d'arbres, est emprunté par d'autres invisibles et pourtant présents, qui de cette rocaille, terre et ciel mêlés, ont fait leur jardin, leur toit, la maison de leur tombeau, petit potager aménagé dans un ancien fossé d'écoulement, golfe d'une rizière dans un creux de la colline, dalle de granit, découpée à la chaleur des feux d'excréments, ou encore le zébu qu'on découvre sur son talus, paisible et solitaire, bougeant à peine à notre passage, la vie ici comme dissimulée dans la terre, à l'image de ce garçon, gardien de troupeau, que l'on apercevra en différents points du paysage, sans jamais le voir se déplacer d'un lieu à l'autre, et que nous finirons par croiser sans qu'il nous salue. Voilà. Donc là aussi, c'est une espèce de succession d'instantanés, mais où l'on loue la présence de l'homme qui se voit justement par son travail, ce travail qui fait que c'est lui qui va quand même façonner ces paysages. Les cris des oiseaux découpent le silence, aiguisé sur la pierre de la nuit. On en entend vers midi siffler la lame, grincer la pointe, fouillant l'écorce, extrayant le lourd suc des souffles, des secrètes caresses de fleurs, des vents, aux argiles de mots insaisissables que pétrit la riche langue malagasy. La rumeur qui monte de la rizière est autre plus lointaine et immatérielle. Elle n'est en rien croissance, lierre s'enracinant en pierre, mais au contraire frémissement, comme scintille un lac, ou claque un linge sur sa corde, variation qui sans fin s'annule du silence. L'espace sonore du jardin se nourrit de ces bruits contraires, à la fois charnels et aériens. Terre et ciel mêlés, le jardin chante des beaux canards rouges vermillons aux côtés desquels tu t'es installé pour lire. Écoute la pensée qu'ainsi tu leur tends. Voilà. Alors on pense que là c'est Ante Iroka. Il y a toujours l'image du jardin, donc apparemment quand même c'est un pays où le jardin est quelque chose qui marque. Des beaux canards rouges, hein, vermillons, donc il y a cette couleur incandescente, hein, le vermillon. Et puis, il s'adresse là, il dit « aux côtés desquels tu t'es installé », mais il y a « installé et eux ». Donc, on sait que c'est la personne dont il parle là, c'est Catherine Bruno. Donc, c'est sa compagne, poète également. Et la poète, qu'est-ce qu'elle fait dans ce paysage? Eh bien, elle va lire, elle lit. Et elle écoute la pensée que tu leur tends. Voilà. C'est le jardin qui va écouter, donc, la pensée de Catherine Bruno, là. Il y a quelque chose d'excessivement vivant dans ce poème, chose de très attachant. Et c'est vrai que les poètes, bon, ils ont cette faculté de pouvoir saisir le paysage par la langue, par les mots. Mais aussi, le paysage inspire, et il n'y a rien de plus agréable, je crois, que dans un beau paysage, un paysage qui inspire, entre guillemets, qui peut inspirer des pensées, qui favorise justement la pensée, il n'y a rien de mieux que de lire. Parce qu'il y a une espèce de la sérénité du paysage, l'ambiance du paysage vont faciliter. C'est comme une certaine musique aussi qui facilite un petit peu le travail certainement des neurones. Il y a là quelque chose de très concret qui fait que on se sent mieux et on lit mieux. Alors je vais peut-être maintenant changer peut-être de... Puisqu'il nous reste 10 minutes. Oui, alors on va changer de paysage complètement, on va changer de pays, et on va aller dans un pays que connaît bien notre ami James Sacré, que nous saluons ici, notre ami James Sacré, qui lui vit actuellement à Montpellier, qui est maître égeu de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse, mais qui a longtemps enseigné et vécu aux États-Unis. Alors nous partons dans la Sierra Nevada, mais pas la Sierra Nevada de l'Espagne, mais celle des États-Unis. Alors il a fait ce voyage en 2012, Éric Chassefière. Écoutons-le. L'averse de neige s'est arrêtée pour un moment. Des foyers se sont allumés dans les nuages. Le lac gèle sous la lumière de soie. On voit autour d'un chapelet de rochers bruns, la surface immobile qui plisse et se distend semble, dans le maillage d'ombres projetées par les nuages, s'animer d'une longue et lente ondulation, comme si le lac se soulevait en colline. J'écoute Ravel, Noctuel, puis Oiseau triste, puis encore une barque sur l'océan. Une lentille lumineuse perce au milieu du lac, puis se rétracte et disparaît. La neige se remet à tomber, chaque flocon plus léger que la plume d'un oiseau. Ayant franchi le col, on ne voit rien d'abord que ces ondulations, des formes assoupies, de l'aride montagne maintenant piquetée de pins, comme un duvet naissant sur une peau, puis à l'instant que, décrivant une courbe large, la route entame la descente vers le lac, le bleu du ciel sous les arbres s'approfondit, fonce et vient remplir tout le champ de vue. La pente vers le lac fausse la perspective et nous la fait prendre un instant pour le ciel, abîme du bleu profond que strie le noir des troncs, dans lequel nous nous laissons glisser par le corps le temps d'un lent basculement de l'horizon. Puis, tout, montagne, ciel et lac, reprend sa place. L'immense lentille bleue courbe quand elle apparut, s'allonge, s'aplanit, déploie les faisceaux de crête qui en font l'enchâssement dans la montagne du regard, le lac, qu'on loge ensuite jusqu'à Crystal Bay, deviendra présence rare, échappée de bleu entre les arbres. La fenêtre à la fin n'ouvrira que sur nous-mêmes, cet autre lac, au profond de soi, qui dit l'instant. La lumière cachée, intensément présente de la mémoire. Alors ça, c'est à Taway Lake, Crystal Bay. Voilà, quand je vous disais que les poètes, elles écoutent souvent de la musique en lisant ou même en écrivant, là, il nous dit bien, hein, il écoute des morceaux de Ravel, il dit lesquels, Noctuel, Oiseau triste et Une barque sur l'océan. Voilà. Et effectivement, il y a là une jonction de sensations entre celle de la musique et celle de ce paysage, de ce qui s'anime sous son regard. Paix de ce lac qu'on ne voit qu'à travers des pins, aux arbres élancés, très droits, et qui soulignent de leur immobilité le paisible défilement des vagues. Là, sous ces arbres troncs veineux maculés d'ombre, à écouter les cris touffus d'oiseaux invisibles qui forment comme un toit sur le silence, à se laisser porter par ce flot de la pensée, de ces mots dont on ne perçoit que la résonance, par ces ombres de troncs que couche la lumière, sans rien révéler de la matière dont ils sont faits, poème, qui n'est ainsi qu'une ombre, une rumeur, sur la table de bois nouée de ma présence, un écho au très haut tournoiement des chants, poème dont, dessinant le silence autour des mots, je me sers comme d'un pinceau pour leur donner forme, les extraire de la matière rugueuse de ces cris d'oiseaux qui, plus tard, deviendront à leur tour silence, encre, dont naîtront d'autres mots, d'autres silences. Léger bruit de grelots, des vagues sur la plage, soleil qui éblouit la peau mais pas les yeux, rumeur étouffée des pagailleurs explorant la surface paisible de leur présence aux choses, rempart au loin des monts dentelés de neige dont on ne saurait évaluer la distance. Tant la teinte brumeuse, épurée de la montagne, tranche avec le bleu finement sculpté de l'eau, au point que la montagne ici paraît le ciel, s'enfonçant sous la ligne d'horizon du lac, l'extrême netteté des sons et des images, limpidité de l'eau là où, touchant les pierres, elle se noue à la matière du regard, teintement que laisse entendre chaque vague qui déferle, s'égrenant en un chat pelé, de son toujours plus fin, bruit étouffé des voix qu'accompagne celui des pas, contraste avec le ciel profond, intemporel, de la paroi montagneuse qui ferme l'horizon et dont la pénombre même éclaire le lac, mais d'une lumière différente, plus intérieure, en sorte qu'indéfiniment le regard s'y prolonge. Ça, c'était à King's Beach. King's Beach. Donc, une plage. Voilà. Alors, il dit bien, là, ce qu'il fait, en fait, dans le poème, hein, comment les mots, pour lui, ses pinceaux, c'est quoi? Ben, ça va être la langue, c'est-à-dire, ça va être les mots. Ça va être les mots, et c'est avec les mots, donc, qu'il va dresser ses tableaux des lieux. Voilà. Avec des mots. Mais les mots, bien entendu, ne sont rien de même, puisque le mot exprime toujours quelque chose. Il exprime une pensée, il exprime une image, il exprime un son, il exprime la vie, et il peut aussi exprimer, et c'est son paradoxe, il sait aussi le mot, il sait exprimer le silence. Allons maintenant à Incline Village. Le jet bleu n'est bleu, je l'apprends, que dans la lumière du soleil. Son plumage est sinon de couleur brune. Je comprends pourquoi l'autre soir, ayant vu pour la première fois de ma vie un tel oiseau, lorsqu'il traversait la route, inondé de soleil entre les pins, sa couleur m'a paru surnaturelle, comme un feu qu'allumerait la lumière. Et pourquoi, se posant sur l'autre bord, dans la demi-pénombre du bois de pin, il m'a semblé glisser en elle, s'y laisser dépouiller de ce bleu si vif qu'un bref instant lui avait accordé mes yeux. Voilà. Alors, il y a là le G. Il s'aperçoit tout d'un coup que, ben, il est bleu. Et pour qu'il voit le bleu du G, hein, qui est un bleu effectivement assez sombre, il ne peut véritablement donner toute sa beauté, ce G bleu, que dans la lumière du soleil. Voilà. Donc, vous avez eu un aperçu de ce que sont ces poèmes des lieux d'Éric Chassefière. Hein, il y a plusieurs pays, il y a l'Inde, il y a le Vietnam, les États-Unis, Madagascar. Voilà, vous avez tout ceci pour que parle la beauté, c'est le titre, écrit sur la route, poème de Éric Chassefière aux éditions Raphaël de Surtis. Vous avez de très belles mises en page et de très belles illustrations là, également. Donc, un très beau livre qui vous coûtera 25 euros. Ainsi s'achève Les Poètes. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente semaine à l'écoute de Radio Occitanie et nous vous disons à la semaine prochaine. Adiciats.